Bonjour, bienvenue dans ce Zoom. Aujourd'hui, je suis j'ai la chance d'être dans un coin de verdure absolument exceptionnel qui me fait penser, pour tout vous dire, à ma Bretagne natale. Et je ne suis pas seul, je suis avec Christian Itty. Bonjour.
Bonjour.
Christian Itty, vous êtes responsable de la réserve de Caroux Espinous pour l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous d'être venu et de découvrir cet espace naturel préservé.
Je le disais, donc, ça me faisait penser un peu à ma Bretagne natale. C'est des espaces boisés, beaucoup de verdure, de prairies avec des herbes hautes. C'est très vert, c'est blanc, beige, jaune aussi. C'est un lieu qui a beaucoup changé ces 50 derniers. C'est l'un des premiers sites, il me semble, protégés, d'espaces protégés dans la région et en France, et qui fête ses 50 ans cette année.
Oui, effectivement. Donc ici, donc on est sur le massif du Caroux Espinous, donc qui est vraiment sur le nord du département de l'Hérault, à la limite de l'Aveyron et du Tarn. Donc avec des profils en termes d'habitat, de végétation, qui peuvent être très différents entre le nord du massif où on est ici, où effectivement on est sur des zones de plateau avec une végétation plus prairiale, des zones de pelouse et des pentes plus douces. Si on se décale au sud de la réserve, on a un contraste assez fort avec des zones qui sont beaucoup plus escarpées, qui là, au lieu de rappeler la Bretagne qu'on peut, avec la verdure et l'humidité qu'on peut avoir sur le nord du massif, sur la partie sud, vont plutôt rappeler des zones qu'on peut retrouver en Corse, par exemple, des zones de relief beaucoup plus escarpées, à végétation méditerranéenne, avec des parties de châtaigneraies, de chênaies vertes dans le bas du massif, sur les altitudes les plus faibles, et quand on arrive sur les parties hautes, de la hêtraie ou de la hêtraie sapinière sur les parties les plus hautes.
Un espace donc extrêmement privilégié en termes de biodiversité.
C'est ça. En fait, comme on est sur la ligne de partage des eaux entre l'Atlantique et la Méditerranée, on retrouve aussi bien des influences atlantiques que des influences méditerranéennes. Et du coup, des espèces qui sont, pour certaines, liées plutôt à des climats plus humides, plus frais, et donc sur les parties nord les plus hautes. Et des espèces qui sont liées à des climats plus chauds et plus secs sur les parties sud, les plus chaudes, où il pleut moins et qui sont les plus exposées au soleil. Alors, tout à l'heure, vous disiez effectivement qu'on fête cette année les 50 ans de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du Caroux Espinous, puisque l'arrêté qui donne le statut de protection actuel de cet espace date de 1973, donc ça fait effectivement 50 ans cette année. Mais il faut savoir que l'historique de la préservation de la biodiversité de ces lieux et l'historique et la volonté de protection de l'environnement qu'on a ici sur le site est encore plus ancien que ça, puisque dès les années 50 existait un projet de parc national du Caroux sur cet espace. Donc ce projet de parc national n'a jamais vu le jour, mais il s'est décliné dans la création de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du Caroux Espinous, et puis aussi au même moment du parc naturel régional du Haut-Languedoc, puisque la réserve est située au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Assez vite, peut-être même dès le début, il y a eu cette volonté de construire cette réserve autour de la protection du mouflon, notamment.
C'est ça. Alors, un des éléments emblématiques, une des espèces emblématiques du massif, c'est effectivement le mouflon méditerranéen. Puisque le massif du Caroux Espinous héberge aujourd'hui la plus grande population de France de cet animal. Après, il faut savoir qu'on est parti d'un nombre d'animaux très restreint, puisque 19 animaux y ont été introduits à la fin des années 50 et jusqu'au début des années 60, et que c'est de ces animaux-là que sont originaires l'ensemble des mouflons qu'on peut voir aujourd'hui, avec une population estimée sur l'ensemble des massifs. Alors c'est difficile de donner un chiffre exact, mais probablement plus de 3000 animaux, puisque aujourd'hui le mouflon est présent sur les 20 000 hectares du massif et pas seulement dans les 1658 hectares que représente la réserve au cœur de ce massif-là.
Il y a quand même eu une évolution extrêmement importante du paysage ici. Comment c'était à l'époque, peut-être du côté de 1973-1956
Alors effectivement, il y a eu une mutation en fait des activités humaines et une mutation du paysage qui est liée depuis un bon siècle en fait. depuis un peu plus d'un siècle, puisque la déprise agricole qui a eu lieu sur ces parties de moyenne montagne, sur une bonne partie des zones, l'arrêt de des exploitations agricoles traditionnelles de type élevage ovin, pâturage d'estive, qui s'est fait ressentir assez rapidement, même d'ailleurs ici sur le massif, puisque dès les années 50, une partie des troupeaux ont disparu. Et donc, en fait, l'arrêt de ces actions de pâturage traditionnelles a conduit à un boisement spontané d'une partie importante de l'espace géographique. Donc par le biais de la dynamique naturelle de la végétation, hein, quand les prairies ne sont plus pâturées, progressivement elles sont remplacées par des zones de landes, puis quelques arbres s'y installent et au bout de 40-50 ans, en l'absence d'entretien humain, quel qu'il soit, hein, par du pâturage ou par du gérobroyage, du brûlage dirigé tel que c'était réalisé traditionnellement sur les parties méditerranéennes, et ben, progressivement la forêt reprend ses droits et on se retrouve avec un espace forestier. Alors ici ça a été le boisement du massif, c'est combiné entre un boisement spontané lié à la dynamique naturelle de la végétation, mais aussi des actions de boisement liées à l'homme, volontaires, que ce soit pour la protection des terrains de montagne, pour éviter le ruissellement par exemple sur des espaces qui étaient assez, voire très ouverts, avec des épisodes cévenols que tout le monde connaît sur nos parties, on peut avoir des phénomènes de ruissellement et d'érosion qui peuvent être importants sur certaines zones dans l'absence de couverture végétale forte. Donc il y a eu des boisements aussi qui sont liés à cette politique de protection des sols, et il y a aussi eu des boisements qui ont été liés à une volonté de développer la forêt, notamment sur les parties les plus productives, les parties de plateau, en direction notamment des industries papetières qui avaient besoin de matières premières pour faire fonctionner ce type d'industrie. Donc là, on est plus sur de la forêt de production. Donc on va retrouver des forêts de protection des sols, mais qui hébergent aussi une biodiversité importante, plutôt situées dans les zones de pente qui ne sont pas ou très peu exploitées, et des forêts de production qui sont exploitées pour la production de bois, plutôt sur les parties les plus plates, les parties les plus supérieures, qui sont évidemment accessibles aux engins forestiers, quoi.
Et donc dans cette évolution, en termes de proportion, on est passé quand même à une large partie boisée.
Oui, alors en 1955, les cartographies de végétation qu'on a faites ici sur le massif montraient des zones ouvertes majoritaires. Et donc, dans ces années-là, on estimait à peu près 70% de milieux ouverts. Donc, quand je dis milieux ouverts, ça veut dire zones de pelouse, prairies, des zones de landes à Genêt ou des zones de landes à Bruyères ou à Calune, et aussi les milieux rocheux sur lesquels la végétation ne se développe pas parce qu'il n'y a pas de sol. Quoi.
Donc, ce qui n'est pas boisé finalement.
Voilà, milieu ouvert, c'est en gros tout ce qui n'est pas boisé. Donc en gros 70% dans les années, au milieu des années 50. Et aujourd'hui, du fait de ce triple phénomène que j'évoquais tout à l'heure, entre le boisement naturel et les politiques de protection des sols, plus les boisements pour production forestière, on estime qu'aujourd'hui, on n'est plus qu'à 25% avec les cartographies actuelles de végétation de milieu ouvert. Donc effectivement, on a perdu des surfaces de milieu ouvert importantes au détriment de la forêt, ce qui, du coup, a conduit à une mutation aussi des espèces faune, flore, qui sont liées, puisque les espèces de milieu ouvert, donc des zones de pelouse, de landes, ont plutôt tendance à diminuer, et les espèces de milieu forestier ont plutôt tendance à se développer et à augmenter. Et donc tout le travail de gestionnaire d'un espace naturel, ou de cet espace naturel en particulier, c'est de conserver l'équilibre entre les différents milieux, et pour conserver une biodiversité maximum, donc le maximum d'espèces, aussi bien des espèces importantes liées à des milieux forestiers, d'anciens milieux forestiers, de vieilles forêts avec du bois mort, etc., que des espèces qui sont liées à des milieux ouverts et qui ont besoin du coup de la subsistance d'activités humaines. Donc nous, en termes de gestionnaire, on va mettre en place des actions de conservation des milieux ouverts. Donc ça va être en l'occurrence, par exemple, des actions de gérobroyage ou des actions de pâturage extensif, comme c'était le cas il y a 50 ans. Et par exemple, en réserve, on a une convention entre l'Office national des forêts qui est donc co-gestionnaire de la réserve avec l'Office français de la biodiversité, et un agriculteur local qui met ses bovins pendant l'été, ce qui lui fournit des surfaces de pâturage dans le cadre de son exploitation, et nous assure une bonne conservation des habitats d'intérêt communautaire dans les zones de pelouse et de landes qui sont pâturées par les vaches, et du coup aussi des espèces qui peuvent être liées, comme l'alouette lulu, qui va utiliser des zones de prairies très ouvertes, le circaète Jean Leblanc ou l'aigle royal, qui vont venir chasser dans ces zones de pelouse et de landes leur proie. Donc le circaète, par exemple, lui, il va plutôt chasser. Donc un circaète, un grand rapace qui a le ventre très blanc, pour ça qu'il s'appelle Jean Leblanc, et qui va chasser, lui, par exemple, les reptiles, serpents, lézards, etc. Donc il a besoin de pouvoir accéder au sol. Et dans un espace forestier, il ne peut pas accéder au sol ou difficilement. L'aigle royal, lui, va plutôt chasser les lièvres ou les renards ou les petits carnivores. Et c'est pareil, du coup, il a besoin de milieux ouverts pour assurer son régime alimentaire.
Est-ce qu'on a une idée du nombre d'espèces ici? Alors, espèces classiques, espèces protégées?
Alors, ça, c'est un vieux rêve toujours d'un certain nombre de naturalistes ou même du public général, de savoir la biodiversité de manière générale, combien on a d'espèces qui sont hébergées sur telle zone géographique, telle réserve ou telle parcelle. Mais en fait, la biodiversité est hyper large et hyper étendue. Donc on a une idée du nombre de mammifères, du nombre de reptiles, du nombre d'oiseaux qui sont hébergés sur cet espace. Par contre, chaque année, et encore aujourd'hui, on a des campagnes d'inventaire dans des domaines et dans des taxons qui sont difficiles et sur lesquels les spécialistes sont peu nombreux, par exemple les insectes, les mousses, les lichens, les champignons. Et chaque fois qu'on fait des campagnes d'inventaire, on trouve encore de nouvelles espèces qui n'étaient pas recensées alors que cet espace est protégé depuis 50 ans. Tout simplement parce qu'il y a 50 ans, on ne s'intéressait pas ou très peu aux insectes ou même aux lichens. Et du coup, aujourd'hui, c'est impossible de donner un chiffre d'espèces exhaustives présentes sur la réserve, parce qu'on sait que dès qu'on va faire une nouvelle campagne d'inventaire, on va trouver des espèces qu'on ne connaît pas encore, parce que tout simplement aujourd'hui personne ne s'y est encore intéressé.
On a parlé donc de l'histoire de cette réserve, mais aujourd'hui, quels sont les enjeux auxquels vous devez faire face?
Alors il y a sur des espaces comme ça, on a plusieurs enjeux qui peuvent être liés soit aux activités humaines, soit à l'évolution globale des milieux et du coup de notre environnement de manière générale. Donc aujourd'hui, clairement, un des enjeux prioritaires auxquels on est confronté en termes de gestionnaire d'un espace naturel et sur lesquels on n'a pas forcément d'ailleurs les clés en local pour agir, c'est typiquement dans des espaces de moyenne montagne comme ça, le réchauffement climatique. Hein, on a de plus en plus de printemps et d'étés chauds et secs. Et du coup, ça impacte fortement l'évolution des milieux naturels et les espèces qui y vivent. Aussi bien en termes de conditions, par exemple, de conditions corporelles des animaux, qu'en termes de répartition des espèces qui peut évoluer. Par exemple, je prends un exemple tout simple. On va sortir du mouflon, qui est l'espèce emblématique du massif, même si je pourrais encore en parler des heures et de l'impact du réchauffement climatique. Mais je prends un autre exemple, qui est la couleuvre de Montpellier, qui est une espèce qui était plutôt inféodé aux altitudes basses, au pied de versant sud. Et il y a 30 ans, on la retrouvait en fait dans les altitudes les plus basses et les pentes les plus sud exposées dans la réserve. Aujourd'hui, la couleuvre de Montpellier, avec les derniers inventaires qu'on a fait l'année dernière et il y a 2 ans, on la retrouve sur les parties de plateaux supérieurs à plus de 1000 mètres d'altitude, là où elle était absente avant. Et donc, c'est une espèce dont la répartition et dont la progression s'est faite en altitude à la faveur du réchauffement climatique. Et donc, elle bénéficie du réchauffement climatique pour étendre sa zone de présence et son espace de vie. Par contre, à contrario, d'autres espèces qui étaient liées à des milieux plus frais, plus humides, comme par exemple le lézard vivipare, qui est une espèce de petit lézard qui va vivre dans les tourbières, à lui tendance à régresser, voire à disparaître de certaines zones parce qu'il ne retrouve plus les conditions de fraîcheur et d'humidité qui lui sont nécessaires dans le cadre de son cycle de vie. Et donc aujourd'hui, par exemple, sur un petit espace qui est proche de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage de Carroux Espinous, qui est l'arrêté préfectoral de protection de biotope de la Perroutarié, sur lequel on a une zone de tourbière au cœur de cet espace-là, le lézard vivipare a disparu de cet espace-là alors qu'il était encore présent au milieu des années 2010. Et donc voilà, voilà un impact, un enjeu auquel le gestionnaire est confronté, mais il y a aussi d'autres impacts. Hein, on l'a évoqué tout à l'heure, l'évolution des milieux qui, de manière générale, qui soit liée à la dynamique naturelle de la végétation ou à des actions humaines, conduit à mettre en place certaines actions de gestion pour, par exemple, essayer de conserver au mieux les milieux ouverts et les espèces qui sont liées, parce que si on ne fait rien, en fait, tout cela se boiserait progressivement, et si on revenait dans 50 ans, en fait, on n'aurait quasiment plus que de la forêt sur la réserve. Or, une partie des intérêts de la réserve sont aussi liés aux espèces qui vivent dans les milieux ouverts. Donc là, on a parlé d'un deuxième enjeu auquel on est confronté. On peut en citer un troisième. Après, je m'arrêterai là, mais on pourra aller plus loin. Le troisième enjeu auquel on peut être confronté en termes de gestionnaire d'espaces naturels, ça va être par exemple la fréquentation humaine et le dérangement que peut occasionner la fréquentation humaine. Donc on imagine souvent dérangement, souvent quand je parle avec des randonneurs qui sont pour une marche autour de la réserve ou en cœur de réserve, à savoir qu'il n'y a que 3 sentiers qui sont autorisés à la randonnée dans le cœur de réserve et que les gens ne peuvent pas sortir des sentiers justement pour limiter le dérangement sur la faune qui est hébergée dans la réserve et qui a besoin de quiétude. Et ben clairement aujourd'hui avec la réduction du temps de travail, avec les phénomènes de confinement que tout le monde a connu au courant de l'année 2020, la demande de nature est forte et donc il y a une gestion des flux et de la fréquentation que le gestionnaire est amené à faire pour préserver la quiétude des espèces et en même temps permettre aussi évidemment aux gens de se ressourcer dans la nature et de faire des découvertes. Mais ça nécessite de bien gérer les flux et les fréquentations pour que l'un n'influence pas défavorablement l'autre. En l'occurrence, que la fréquentation humaine n'influence pas trop négativement la présence ou l'état sanitaire de certaines espèces, parce que les gens ont parfois un peu de mal à l'imaginer, mais le simple fait de randonner régulièrement avec des effectifs qui peuvent parfois être élevés de gens, par exemple le massif du Caroux ou les gorges d'Éric sont très très fréquentés, et du coup ça peut conduire certaines espèces à ne plus utiliser certaines zones si la fréquentation humaine est trop forte. Et pour certaines d'autres espèces qui n'ont pas forcément la faculté de se déplacer, ou de pouvoir réagir à la fréquentation humaine en par exemple en décalant leur activité ou en termes d'horaire, hein. Par exemple on peut observer l'été ou à l'automne quand la fréquentation est très forte en journée, voilà, je vais reprendre l'exemple des mouflons par exemple, ils vont décaler leur activité de la journée vers la nuit pour tenir compte de la fréquentation humaine et pour pouvoir par exemple s'alimenter à des périodes où ils vont pas être dérangés par les gens qui randonnent. Sauf que par exemple en été la période de nuit est plus courte que la période de jour, donc ils n'arrivent pas à compenser, si le dérangement est trop fort ils ne peuvent pas compenser suffisamment la nuit par rapport à ce qu'ils perdent la journée, et donc d'où notre travail de gestionnaire d'essayer de réguler un peu les flux, de créer des zones de quiétude sur lesquelles les animaux ne sont pas dérangés et ils peuvent continuer à avoir l'ensemble de leurs activités tout au long de la journée sans forcément avoir à réagir à un chien qui va se balader, qui va sortir du sentier, qui n'est pas en laisse, etc.
Pour revenir sur côté sécheresse, c'est vrai que je décrivais au début un coin de verdure. Ça peut être trompeur, cette image qui est un peu idyllique, hein, faut reconnaître, mais voilà, ça cache quand même de la sécheresse ici aussi.
Oui, effectivement. Alors le contraste est assez saisissant, hein, pour quand on monte de Montpellier, de Béziers, qu'on traverse le cœur de l'Hérault où déjà la végétation jaunit et elle est beaucoup plus sèche qu'ici. Alors qu'ici, on arrive en altitude, la pousse de végétation est plus tardive déjà du fait de la température qui augmente moins vite que dans les plaines. Mais effectivement, on se rend compte que sur les dernières années, la multiplication des étés chaud et surtout des printemps chauds, en fait c'est surtout le printemps qui se réchauffe ici, conduit à ce que la végétation soit sèche beaucoup plus rapidement que c'était le cas il y a 20 ou 30 ans, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes pour un certain nombre d'espèces qui n'arrivent pas, par exemple pour la période de mise bas chez le mouflon par exemple, on voit que l'herbe est beaucoup plus sèche et donc de moindre qualité nutritive beaucoup plus tôt qu'il y a 20 ou 25 ans. Par contre, les mises bas ne se sont pas décalées d'autant. Ce qui fait que les animaux qui naissent à peu près toujours à la même période sont beaucoup plus rapidement, quand ils sont jeunes, confrontés à des phénomènes de sécheresse et de mauvaise alimentation, ce qui peut avoir des impacts sur la survie. Et aujourd'hui, par exemple, on a des niveaux d'eau, même ici où c'est encore vert sur le cœur de massif, qui sont des niveaux d'eau qu'on devrait normalement avoir au mois de juillet, et alors qu'on est que début juin.
Peut-être pour clore ce chapitre des enjeux et des obstacles auxquels vous pouvez faire face en tant que représentant de l'Office français de la biodiversité et je pense aussi à l'ONF, co-gestionnaire donc de cette réserve du Caroux espinous. Je l'ai aperçu en venant, les éoliennes qui sont présentes, je ne sais pas si elles sont dans la réserve, elles sont en bordure.
Alors elles sont dans la réserve, en fait il y a une réglementation assez forte, hein. J'ai parlé tout à l'heure de la restriction de la fréquentation, mais elle s'applique aussi aux autres activités humaines, hein, puisque il n'y a pas de, par exemple, pas de prélèvement de végétaux ou de minéraux qui sont possibles, et effectivement pas d'aménagement industriel non plus. Donc en réserve, on n'a pas d'éoliennes, mais on en a effectivement sur la périphérie de la réserve, puisque du sommet de l'Espinous, on peut, en se décalant un peu, pas toujours du même point, mais on peut compter presque une centaine d'éoliennes désormais qui sont implantées autour de cet espace. Donc, alors c'est évidemment un secteur favorable, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on était sur la ligne de partage des eaux, donc c'est aussi la ligne d'affrontement des masses d'air, et donc effectivement ça crée du vent, donc c'est un secteur favorable au développement éolien, qui peut avoir un certain nombre d'effets délétères effectivement sur certaines espèces, quand elles, selon leur zone d'implantation, et ça c'est des aspects sur lesquels on travaille en termes d'études, de recherche et même de suivi. On sait aujourd'hui qu'il y a des implantations pour les éoliennes qui sont moins problématiques que d'autres, on a au contraire effectivement des implantations qui peuvent être problématiques quand les éoliennes sont installées sur des lignes de crête qui sont des couloirs de passage de migration pour les oiseaux, à proximité de zones de nidification de grands rapaces, à proximité de falaises qui sont utilisées, dont de falaises karstiques, donc où il y a des cavités qui sont utilisées par des colonies de chauves-souris pour effectuer leur site de reproduction. Donc le constat est mitigé, on va dire, entre effectivement la nécessité d'avoir des énergies renouvelables pour produire de l'énergie dont on se sert tous, et certaines implantations où malheureusement finalement on en vient à se dire des fois, parfois, que à cet endroit-là les éoliennes sont plus problématiques qu'autre chose, quoi.
Je pense à la mort d'un aigle sur le massif de l'Escandorgue, notamment.
Oui, qui est juste à côté, qui est le couple voisin. Vous voyez ici, on a un couple d'aigles royales qui niche sur le massif de l'Espinouse, et son voisin le plus proche est effectivement sur le massif de l'Escandorgue, où au mois de janvier, là, le mâle adulte est mort dans un parc éolien. Et du coup, là, on a deux parcs éoliens qui sont construits à proximité de la réserve, probablement les plus proches aujourd'hui par rapport aux éoliennes qui sont... Le restant des parcs éoliens est situé plutôt en limite du Tarn et de l'Aveyron, sur des zones de plateau en direction de Murat, entre Cambon, Castanet, qui sont des communes éolothèses, jusqu'à Murat, qui est une commune tarnaise. Là, on a deux nouveaux parcs éoliens qui se sont développés, et on a encore de nouveaux projets plutôt en limite Hérault-Tarn, qui là, par contre, eux vont impacter le couple d'aigle royal qui utilise la réserve. Donc là, nous, nos actions, on a dans le cadre de ce travail, on a équipé un des adultes d'un GPS il y a quelques années. Donc ça nous a donné un état initial de son domaine vital, de comment il fonctionnait avant la construction des parcs. Et là, au mois de mars, on a rééquipé un des deux individus, donc juste après la construction des parcs éoliens qui ont eu lieu à l'automne. Et donc dans un an, on pourra faire le après et voir effectivement ce qui a changé, comment ça a changé, en dehors du risque de collision, de voir s'il y a eu une fragmentation des habitats, une plus faible utilisation de certains milieux à proximité des éoliennes, et voir éventuellement où il a compensé, ce qu'il a perdu dans cette zone-là. Et derrière, on peut décliner ça en mesures compensatoires, etc.
Rendez-vous dans un an, donc. Il y a, pour ces 50 ans, pour célébrer ces 50 ans aussi, un rendez-vous qui a lieu donc ce vendredi 2 juin. Un rendez-vous donc où l'OFB pourra présenter un peu tout le travail qui a été fait sur cette réserve.
Oui, alors du coup, vendredi 2 juin, donc à 20h, à la salle culturelle de Saint-Gervais-sur-Mare, on organise une conférence sur la biodiversité du massif du Caroux-Espinouse. Donc l'idée, c'est de présenter les principales espèces et principaux milieux qu'on peut retrouver sur le massif. Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop la biodiversité ou qui auraient envie d'en savoir un peu plus sur les espèces qu'ils peuvent rencontrer. Cette conférence sera animée par l'Office français de la biodiversité, en l'occurrence moi-même, mais aussi des collègues de l'Office national des forêts qui seront là et de la direction départementale des territoires et de la mer. Et au-delà de l'aspect présentation, l'idée aussi c'est de répondre et surtout de répondre d'ailleurs aux questions du public que le public pourrait avoir sur les espèces qui sont présentes ici sur le site, mais aussi l'évolution de certaines populations. Donc tout le monde ou une partie des gens ici savent que depuis quelques années il y a un loup par exemple qui est revenu sur le massif, donc on n'éludera pas la question, et ceux qui voudraient avoir des informations sur ces dynamiques de population, les espèces présentes, les espèces qui sont apparues, comment elles vivent, ce qu'on fait en termes de suivi, seront bien évidemment les bienvenus et on répondra à toutes ces questions-là. Donc c'est dans le cadre de ces 50 ans de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du Caroux espinous, dont on a donc cette conférence du 2 juin. On a aussi deux expositions qui vont tourner dans les mairies et les offices de tourisme localement. Donc une expo plutôt esthétique avec des photos qui présentent les principaux milieux, quelques espèces, avec un caractère sympa puisque c'est des belles photos, et une expo plus scientifique pour ceux qui veulent en savoir plus, avec qui présente 50 ans d'études et de recherches sur le massif et ce qu'on a fait en termes de travail sur la biodiversité et sur le mouflon en particulier, puisque ça fait 50 ans qu'on préserve la biodiversité sur ce massif là mais aussi qu'on mène des travaux d'études et de recherches pour mieux savoir comment elle vit, ce dont ont besoin les espèces, comment elles réagissent aux évolutions de milieu, aux évolutions d'activité, aux évolutions du climat, enfin tout ce qu'on a évoqué depuis le début de cette interview.
On rappelle la date et...
Oui, donc la conférence, vendredi 2 juin, 20h, salle culturelle de Saint-Gervais-sur-Mare. Donc pour une conférence sur la biodiversité du massif, avec toutes les questions auxquelles le public voudrait avoir des informations et sur lesquelles il peut donc venir pour avoir des réponses. Mais on en reparlera peut-être. On aura une seconde conférence à l'automne qui, elle, sera plus spécifiquement dédiée à 50 ans de recherche avec 50 ans de résultats de suivi scientifique très poussés qui seront présentés.
Et si vous voulez vous faire une idée aussi, il est toujours possible de venir randonner, alors avec modération. Il y a des périodes peut-être aussi où c'est plus intéressant pour réguler un peu ces randonnées, de venir randonner.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la réserve fait 1658 hectares, le massif en fait 20 000, donc il y a effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, une restriction de fréquentation sur la réserve, puisqu'il n'y a que 3 sentiers qui sont autorisés, mais par contre, sur l'ensemble du reste du massif, il y a plein de sentiers d'autorisés, vous pouvez aller avec une facilité plus grande sur le plateau du Caroux, par exemple, sur les gorges d'Éric, les gorges de Colombière. Il n'en manque pas. Avant de faire le tour de tous les sentiers de randonnée du massif, on peut y passer quelques jours. Du coup, il n'y a pas de période. Alors, il y a des périodes qui sont plus intéressantes que d'autres. Par exemple, si vous voulez faire de l'observation de la faune ou de la flore, en règle générale, c'est beaucoup plus intéressant au printemps, sur les mois d'avril, mai, jusqu'à juin, que de venir en plein été, en juillet-août, où en fait la chaleur fait que les espèces sont beaucoup moins, ce qu'on évoquait tout à l'heure, sont beaucoup moins diurnes et beaucoup plus nocturnes, et du coup les observations par exemple de faune sont plus difficiles. Donc après, si vous voulez voir la beauté et la qualité des paysages, là il n'y a pas vraiment de saison. On a des cachets très différents entre le printemps qui est très fleuri, le mois de juin, là, par exemple, où il y a beaucoup de versants qui sont tout jaunes grâce à la floraison des genêts. Si vous venez au mois de juillet, ça sera tout violet parce que à ce moment-là, ça sera les landes à Calune et à Bruyère qui seront fleuries. Donc, on a aussi des paysages dont les aspects esthétiques peuvent changer en fonction des périodes avec la floraison des différentes espèces.
Merci beaucoup, Christian Etty. Je rappelle que vous êtes responsable de la réserve Caroux Espinous pour l'Office français de la biodiversité, co-gestionnaire donc avec l'Office national des forêts.
Merci à vous.